On va continuer la leçon qu'on avait commencée là, un mois. Là, je pense qu'on dit qu'on fait la confession de foi 1689, le dernier dimanche du mois. Vu qu'on est le dernier dimanche du mois, on va faire la confession de foi 1689. Et c'est intéressant de noter que dans la confession de foi, on reconnaît que la doctrine du décret de Dieu, c'est une doctrine fondamentale de la vie chrétienne. Alors, c'est intéressant de comprendre que ce qu'on lit, et de se rappeler que si c'est fondamental, c'est un peu comme un solage. Il faut savoir vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Alors, on avait dit qu'on commencerait, que le décret général de Dieu comprend plusieurs choses. Il comprend tous les événements qui arrivent dans tout l'univers, en général, et ça, la quantité d'événements qu'il y a là-dedans, là, les étoiles, les planètes, les fleurs, les arbres, tout ce qui arrive a été décrété de Dieu. C'est difficile d'imaginer toute la quantité de choses là-dedans. Les fourmis, les oiseaux, tout est compris là-dedans, leur sort, leur destinée, qu'est-ce qui va leur arriver dans la vie. Alors, les événements, on avait dit que le chapitre 3 de la Confession de foi baptiste de 1689, il comprend les paragraphes 1 et 2, et après ça, il y a 3, 4, 5, 6, 7. Nous, on va rester aujourd'hui sur les décrets de tous les événements. Donc, le paragraphe 1 et 2. On avait vu qu'il y avait un contexte historique à cela. On va juste faire une révision de ce qu'on avait vu la dernière fois. Le contexte historique, c'est qu'il y avait un conflit entre ce qu'on appelle les Arméniens et les Calvinistes à l'époque en Angleterre. Et les presbytériens, eux, avaient écrit une confession de foi qui s'appelait la Westminster Confession of Faith de 1646. Et les baptistes, eux, n'ont fait une en 1689. Dans le fond, le but de ça et la place que ça occupe dans la confession de foi, c'est tout simplement pour rappeler que c'est d'une importance extrême de comprendre le décret de Dieu, de tous les événements. Parce que de ça va découler, vous remarquerez que dans la confession de foi, la création, la providence et le salut arrivent après. Pourquoi ils arrivent après? C'est parce que ça découle de cet événement-là. On avait vu aussi que, différents versets, on n'a pas tout été les voir, ceux qui sont intéressés par aller voir les versets de la leçon, vous pouvez toujours soit télécharger sur Internet ou me le demander, puis je vous en donnerai une copie. C'est très important d'aller voir les versets. Quand on dit quelque chose, comme la phrase « Rien ne peut empêcher l'accomplissement des desseins divins ou des décrets divins », à quelque part, je peux dire ça, mais si tu me dis chapitre et verset, tu as raison, parce que tout ce qu'on enseigne, il faut que ça vienne de la Bible. Alors, il y a plusieurs versets qui nous disent que rien ne peut empêcher l'accomplissement des décrets divins. Ce que Dieu a décidé de toute éternité. Il a décidé ça dans l'éternité. Tout ce qui était pour arriver durant tous les siècles allait jusqu'à la fin et même au-delà. Parce que dans le ciel, la vie va continuer. Tout ça, c'est décrété aussi. Là. La quantité d'événements qu'il y a là-dedans, là, si on s'arrête un peu, là, c'est énorme. Il a décidé de tout ce qui était pour arriver. Et il n'y a rien qui ne peut empêcher l'accomplissement de ses décisions dans l'espace et dans le temps, comme on dit. L'autre observation qu'on avait vue la dernière leçon, c'est que rien n'échappe au décret de Dieu. Il n'y a rien qui peut arriver sur la terre, dans l'espace, dans l'univers, qui n'a pas été décidé par Dieu lui-même en conseil. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit a décidé de tout ce qui était pour arriver. On va reviser très rapidement tout ce que ça comprend quand on dit « Rien n'échappe au décret de Dieu ». Dieu a décrété les événements qu'on appelle bons et les événements qu'on appelle mauvais à notre appréciation à nous. Là. Il a tout décrété ce qui était pour arriver, les guerres, les maladies. Et là, ça s'applique autant à notre vie individuelle qu'à la vie de toute l'Église ou de tous les êtres humains du monde entier. C'est presque pas croyable. Parce que quand tu parles de, je sais pas, on parle de 8 milliards qu'on serait rendu. Tous les événements, même minimes de la vie quotidienne Dieu a décidé de tout ce qui était pour arriver pour tout ce monde-là, depuis le début de la création, aller jusqu'à la fin. C'est pas, quand tu te mets à y penser, là, c'est énorme. Donc, les événements, il a décrété tous les événements bons et mauvais. Il a décidé même des actions pécheresses sans que lui soit le... Sans que lui soit l'auteur du péché, il a décidé les événements, les péchés qu'on était pour commettre dans nos vies sont décidés, mais on ne les fait pas parce que lui a décidé. On les fait parce qu'on est des pécheurs. Et essayer de concilier les deux, c'est un peu difficile parce que tu dis, si c'est lui qui a décidé le péché qu'on était pour accomplir, comment moi je peux être responsable si Dieu l'a décidé? La Bible dit les deux. Dieu a décidé des actions. Et Dieu dit que lui n'est pas auteur du péché, mais que c'est toi qui l'accomplis. Donc, les actions pécheresses des hommes sont tout ce qui peut arriver comme péché sur la terre. Dieu avait prévu et décidé qu'est-ce qui arriverait. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle les actions libres des hommes. Disons que vous vous levez un matin, puis vous travaillez quelque part, puis vous dites, moi un matin, là, c'est fini, je ne travaille plus là. Je vais au genou, puis je vais me trouver un autre job. Ben, Dieu avait décidé d'avance qu'il savait qu'il était pour arriver. Puis pourquoi il savait qu'il était pour arriver? Parce que c'est lui qui l'a décidé. Donc, les actions, ce qu'on appelle les actions libres des hommes, là, j'ai plein de versets, je pourrais vous les donner, mais là, on resterait ici jusqu'à demain matin. Après ça, ce qu'on appelle les événements relevant du supposé hasard. La Bible nous dit que les événements d'hasard, il y a un verset qui dit, je me souviens, c'est-à-dire, les dés sont jetés dans le pan de la robe, mais toute décision dépend de l'Éternel. Autrement dit, ce que nous, on considère comme étant des choses du hasard, ça n'existe pas, le hasard. Dieu a décrété tous les événements de la vie, y compris ceux que nous, on appelle les événements du hasard. Les détails de nos vies. Ça, c'était important, c'était intéressant de s'arrêter à ça. Où tu vas venir au monde? Ça va être ta qualité de vie, physiquement, tu vas avoir l'air de quoi? Tu vas avoir des maladies dans ta vie, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir... Tout ça, là, sans aucun événement de ta vie, tout est compris là-dedans. Tout ce qui t'arrive. Tu vas à l'hôpital. Dieu avait décrété que tu irais à l'hôpital. Mais ce n'est pas lui qui est responsable du fait que tu es allé à l'hôpital. Souvent, pas tout le temps, là, mais souvent, quand on va à l'hôpital, c'est le résultat de nos péchés. Pour toutes sortes de raisons, on ne rentrera pas dans les détails de ça. Donc, les détails de nos vies, le jour de notre naissance, l'endroit de notre naissance, comment on serait constitué physiquement, où on irait, notre degré d'éducation. Quand vous dites tout, là, c'est tout. Les détails de ta vie. Dieu a décrété tout ce qui était pour t'arriver dans ta vie. L'autre chose qui est comprise, c'est les affaires des nations. Moi, je me souviens, quand j'avais à peu près un petit peu à m'aider de sauver, ça m'intéressait beaucoup la politique internationale. J'essayais de comprendre comment ça se fait que les hommes agissent de telle et telle façon, dont les guerres, les révolutions, tout ce qui se passe dans les nations. Et je comprenais jamais. Tu peux me dire comment ça se fait que les hommes apprennent pas? On dirait qu'ils répètent continuellement les mêmes erreurs, et j'essayais de trouver... Pourquoi les hommes agissent toujours comme ça? Inutile de vous dire que tant que j'ai été païen, j'ai rien compris. Quand on rentre dans les Écritures et qu'on se met à les étudier un petit peu plus en profondeur, là on comprend que ce qu'on appelle les affaires des nations, Dieu est au contrôle de tout ce qui arrive au niveau politique depuis le début et jusqu'à la fin. Parce que des fois, on est porté à penser que ce sont les hommes qui déterminent leurs affaires entre les gouvernements, mais la Bible dit que c'est Dieu qui détermine tout ce qui arrive entre les nations. Et ça, là, quand on commence à comprendre ça, c'est rassurant. Parce que quand on regarde la situation internationale, on se dit, les hommes sont tellement fous, ils sont assez fous pour payer sur un piton pour se faire exploser eux autres mêmes. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre et rien ne va arriver que lui n'a pas décidé. C'est-tu rassurant, ça?
Oui.
Moi, ça me rassure énormément. Mais tant que tu ne connais pas les Écritures, que tu ne sais pas ça, ben là, tu as peur. Parce que tu dis, quand tu regardes la situation sur la terre, tu n'es pas capable d'écouter une nouvelle une seule fois sans voir une multitude de péchés. Pas rien qu'un. Tu regardes les nouvelles, puis c'est péché par-dessus péché, par-dessus péché, par-dessus. Tu entends parler juste de ça, du péché. Et observation qu'on avait vue aussi, c'est que rien ne conditionne les décrets de Dieu. Dieu n'a pas décrété une chose parce qu'il voyait d'avance que tu étais pour faire ça, et il a dit « c'est ça qui va arriver ». Il a décidé qu'est-ce qui était pour arriver, sans même tenir compte. Alors, tu sais, rien ne conditionne les décrets de Dieu. Il n'a pas fait ça parce qu'il voyait d'avance. Il l'a fait parce qu'il l'a décidé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est un souci, ça rappelle à peu près ça. Le deuxième point, j'avoue que le décret des actions pécheresses des hommes, si Dieu a décrété tous les péchés que tous les hommes étaient pour commettre de tout temps, essayer de concilier ça avec ta liberté, c'est pas facile. La seule chose que tu peux faire, c'est croire ce que Dieu dit. Il les a décrétés, il n'est pas l'auteur du péché, c'est toi qui es responsable, mais ils avaient décrété quand même d'avance. Essayez de concilier ça, là, vous allez voir que c'est du stock. Donc, on avait vu le décret divin de tous les événements, son universalité. On avait vu un petit peu. Autrement dit, il n'y a rien qui arrive sur la terre ou dans l'univers, dans la mer, dans les cieux, dans les animaux, que Dieu n'a pas décrété. C'est à quelque part, c'est très important de se souvenir de ça. Alors, on va le relire, le paragraphe 1. Je vais juste vous le relire, on ne rentrera pas dans les détails. On avait commencé un petit peu l'explication. Ça dit, de toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion avec quiconque à cet effet. Sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies, ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Ça, j'avoue que quelqu'un qui lit ce paragraphe-là, là, qui pense qu'il a compris, ben, des fois, il y a peut-être besoin de nous expliquer ça en avant. C'est difficile à saisir, pourtant c'est quelque chose qui est le... Alors on avait vu, on va le décortiquer un petit peu selon le texte, de toute éternité. Autrement dit, quand Dieu a pris toutes ces décisions-là concernant toute chose, ça dit de toute éternité. Il y a plein de versets, Isaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver ». Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas fait encore, je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Autrement dit, tout ce qui arrive, c'est que Dieu l'a décidé et ça fait tout simplement s'exécuter dans le temps et dans l'espace. C'est vraiment une énorme chose. Alors, ça dit de toute éternité, selon le conseil. Autrement dit, dans le ciel, de toute éternité, il n'existait pas la terre ni l'univers. C'était avant. Dieu le Père, avec Dieu le Fils, qui était Jésus-Christ, et avec Dieu le Saint-Esprit, ont décidé en conseil, autrement dit en conseil, il y avait comme une certaine délibération, une certaine communication entre les trois personnes pour que les trois personnes décident de tout ce qui était pour arriver sur la terre de toutes les époques. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un gros contrat, comme on dit. On parle du « le décret de Dieu », mais qui inclut tout ce qui était pour arriver à toute époque, à tous les niveaux. Alors, si on veut tout simplement définir le concept de décret selon la Bible, je vais vous dire, je vais vous trouver une référence, c'est les textes, ça s'appelle les textes de Westminster, le petit catéchisme de Westminster. Le petit catéchisme de Westminster, là, c'est qu'à l'époque, les presbytériens s'étaient fait un petit catéchisme. Quand on allait à l'école, nous autres, on avait un petit catéchisme aussi. Hein? Mais les autres, ils ont pris un catéchisme basé sur la Bible. Et là, à la question, quels sont les décrets de Dieu? Voici ce que ça disait dans un petit catéchisme. Un petit catéchisme, il ne faut pas oublier une affaire. Hein? C'est supposé d'être destiné aux enfants. Il y a deux, il y a « The Great Catechism », le catéchisme des adultes, Puis il y a le Shorter Catechism, c'est le catéchisme pour les enfants. Donc, on serait supposé, est-ce que je vais vous dire ça, là, on serait supposé de savoir ça depuis qu'on est des enfants, si on aurait été élevé par des parents chrétiens. Les décrets de Dieu sont son dessein éternel, selon le conseil de sa volonté, dessein par lequel, en vue de sa propre gloire, il a préordonné tout ce qui advient au monde. Disons que hier, vous avez entendu parler qu'il y avait un accident. Décret de Dieu. Quelqu'un rentrait à l'hôpital, décret de Dieu. Sans qu'il soit l'auteur du péché. À quelque part, c'est difficile de saisir que Dieu a fait tout ça. Alors, ça dit aussi que selon son conseil, très sage et très saint de sa volonté. Autrement dit, les décisions qui ont été prises entre les trois personnes de la Trinité, c'est très sage et c'est très saint. Le péché n'a pas de place là-dedans, dans le sens que ce n'est pas lui qui a décidé de faire pécher le monde. Le monde a péché à partir du moment de la chute. Qu'est-ce que c'est la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, ça s'explique, ça s'exprime par un plan sans faille de façon absolue. Vous essayerez de trouver quelque œuvre humaine qui est sans faille. Il n'y en a pas. On trouve toujours des défauts dans tout ce que les hommes peuvent faire, mais quand ça dit le très sage et très saint conseil de Dieu, Dieu, dans son décret, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas une. Il y a zéro erreur. Donc, ça dit ensuite, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement. Immuablement, ça veut dire que ça ne peut pas changer. Ce qui a été décrété, ça va arriver. Comment que je dirais, pour que ça change, ça ne changera pas. Tout ce qui arrive. Alors là, quand vous dites tout ce qui arrive, dans le mot tout, là, c'est l'univers, les étoiles, les planètes, le règne animal, le règne végétal, le règne humain, les nations, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion avec quiconque à cet effet. Donc, il faut comprendre que ce qui arrive, c'est que Dieu l'a décidé, mais que ce n'est pas lui qui est l'auteur du péché. Le péché, c'est l'homme qui l'accomplit. Et là, on était rendu là. Sans faire violence à la volonté de sa créature. Autrement dit, la tentation pourrait être de dire, si Dieu a décrété tous les péchés de toutes les époques, de tous les temps, y compris les miens, bien, ça va arriver parce que Dieu l'a décrété. Autrement dit, tu es en train de rendre Dieu l'auteur du péché. La Bible dit avec une certitude absolue que Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais qu'il a quand même décrété les événements de péché qu'on fait dans nos vies. Alors, quand ça dit sans faire violence à la volonté de sa créature, ça n'arrive pas. Le péché, tu ne l'accomplis pas parce que Dieu a décidé que tu l'accomplirais. Tu l'accomplis à cause de ta propre nature pécheresse, mais Dieu l'avait décrété quand même d'avance. C'est un petit peu difficile à saisir. Cependant, il dit, « Et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. » Dieu émet les décrets. C'est la cause première des événements qui arrivent dans l'espace et dans le temps. Dieu accomplit cependant ses décrets à l'aide de moyens. C'est ce qu'il appelle dans le texte les causes secondes. Le pasteur, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le théologien R.C. Sproul, il est bien connu aux États-Unis, il y a le ministère qui s'appelle Ligonier Ministries. Il a écrit un volume lui, qui parle de ça, et voici ce qu'il dit. Je trouve ça très intelligent, c'est une traduction libre, c'est pas parce que c'est écrit en anglais. Il dit « Plus nous réfléchissons sur ce sujet, et plus nous travaillons à en résoudre les apparentes difficultés, plus nous réalisons que nos destinées, nos vies et les vies de nos enfants ne sont pas, en dernière analyse, exposées aux forces aveugles de la chance ou du sort. » Autrement dit, tu es en train de te dire, il n'y a rien qui t'arrive dans ta vie ou sur la vie de tes enfants, que c'est le fruit du hasard ou de la chance. Nous vivons dans le monde de Dieu, notre Père, et nos vies sont entre ses mains. Son dessein et sa volonté s'accomplissent toujours. Pourquoi je dis que c'est fondamental? Pourquoi, quand une bonne journée, il se met à pleuvoir, puis toi, tu avais prévu que tu aurais aimé mieux avoir du soleil? Tu chiales. Mais quand on chiale, là, on est en train de dire à Dieu, ce que tu as décrété pour aujourd'hui, la température, c'est pas correct, moi. Tu es en train de dire, moi, là, ce sera rien que de moi, ce sera bien mieux que ça. Là. Pourtant, ça dit très sage, j'ai pas fait d'erreur. Dieu a décrété que c'est ça qui était pour arriver. Mais quand on chiale, selon vous, est-ce qu'on pêche? On a-tu pêché cette semaine? Il mouillait pas mal, hein? Moi, j'ai eu de la visite, hein? Puis je dois avouer que, bien humblement, là, que je te portais à chialer. Misère, il vient de la visite, j'aurais aimé ça qu'il y ait du soleil. Mais Dieu avait décrété que c'était de la pluie. Normalement, je devrais toujours être heureux et avoir le sourire jusqu'aux oreilles parce que c'est Dieu qui l'a décrété et tout ce qu'il décide, c'est parfait. Pourtant, je trouve le moyen, moi, de lever la voix. Quand je vous disais la gravité du péché, là, c'est vrai quand on en prend conscience que chialer contre ce que Dieu a décrété, l'hiver, par exemple. L'hiver! Ça n'est pas de neige sur mon char. Enlever ça, puis là, tu te lèves, là, tu brailles, tu chiales, tu pètes des bras encore. T'arrêtes pas! On n'arrête pas de chialer! Pourtant, quand on dit que c'est une doctrine fondamentale, c'est que si tu l'aurais vraiment compris, quand tu penses que tu l'as compris, relis-les encore. Puis quand tu penses que tu l'as compris, là, relis-les encore. Parce que tout ce qui arrive, c'était décrété par le Seigneur. Alors, on devrait toujours être content. On ne devrait jamais chialer. Pourtant, on chiale tout le temps. Mais chaque fois que vous chialez, est-ce qu'on se rend compte que chialer, c'est un péché? Puis que juste chialer une fois, même sur la température, ça te mériterait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la gravité du péché, c'est beaucoup plus grave qu'on pense. Parce que si on serait vraiment, on aurait vraiment compris ce que Dieu dit dans les Écritures, on chialerait à jamais. Alors, quand il dit que les choses qu'on vit dans la vie, c'est Dieu qui les a décrétées, et qu'on nos vies dans les moindres détails et celles de nos enfants, on devrait se rappeler qu'on est dans la main de Dieu et que Dieu exécute ce qu'il avait décrété de tout temps, ce qui était pour arriver pour toi, pour tes enfants et pour tout ce qui t'entoure. On ne devrait jamais chialer, même quand ça fait mal. Des fois, ça fait mal. La maladie, on est hospitalisé, c'est pas vraiment agréable, hein? Mais pourtant, Dieu est là-dedans aussi, puis il a permis que ça t'arrive dans ta vie pour des raisons sages et saintes. Quand, si on aurait vraiment une maturité chrétienne à toute épreuve, là, on chiolerait jamais. On dirait, Dieu, c'est ça que tu m'envoies aujourd'hui, c'est sage, c'est saint, merci Seigneur. Ça fait mal, mais merci Seigneur quand même. Alors, le décret divin de tous les événements, on va regarder le côté l'inconditionnalité de ça. Paragraphe 2 de ça. Alors, ça dit, bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver, quelles que soient les circonstances, il n'a cependant pas décrété telle chose parce qu'il l'a prévu comme futur. Autrement dit, s'il décide de sauver quelqu'un, là, c'est pas parce qu'il regardait dans l'avenir, puis il a dit, regardons ça, lui ou elle, là, il va être bien disposé à mon égard, donc je vais le sauver. Il a décidé avant. Il a pas décidé une chose parce qu'il voyait une chose comme future. Il a décidé qu'une telle ou une telle personne serait sauvée parce que c'était dans ses décrets. Ni parce qu'elle devait arriver en raison des conditions préalables. C'est la doctrine du décret de Dieu, là, si vous avez une chance de vous trouver un bon volume en français qui parle de ça, là, je vous conseille très fortement. Lisez ça parce qu'après, on ne voit plus jamais la vie de la même façon. Jamais. On comprend que la main de Dieu s'accomplit à travers nos circonstances et à travers les circonstances de tout ce qui arrive dans les gouvernements du monde. C'est difficile à saisir, mais d'un autre côté, il y a un côté très rassurant à tout cela. Voyez-vous, quand on lit que ça dit dans le texte, ça dit « Bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver, quelles que soient les circonstances. » Alors, Dieu connaissait absolument toutes les possibilités de ses décrets. Il savait ce qui aurait arrivé s'il avait décidé que les choses arrivent autrement. Acte 15, verset 18, ça dit « De tout temps, Dieu connaît toutes ses œuvres. » De tout temps. Acte 27, verset 19 à 31. Ça, tout le monde connaît ce petit passage-là dans le livre des Actes. Quand Paul était... ils ont eu un problème sur la mer. Puis là, le bateau était sur le bord de couler. Là, on a un bel exemple de ça. Ça dit... Et le troisième jour, nous jetâmes de nos propres mains les agrès du vaisseau. Et comme ni le soleil ni les étoiles n'apparurent pendant plusieurs jours, et qu'une tempête qui ne fut pas peu de choses nous pressait, on perdit dès lors toute espérance que nous fussions sauvés. Il était dans une tempête telle, sa mère, qu'il était tout convaincu qu'il était pour y rester. Verset 21. Et comme on avait été longtemps sans manger, Paul, se tenant alors debout au milieu d'eux, dit « Certes, ô homme, il fallait, en m'obéissant, ne point démarrer de crainte et s'épargner ce péril et ce dommage. Maintenant, même, je vous exhorte à avoir bon courage, car il n'y aura aucune perte d'âme parmi vous, mais du vaisseau seulement. » Comment ça, il savait ça, lui? Parce que Dieu lui avait révélé. Il savait que si les hommes qui étaient sur le bateau, si je me souviens bien, il me semble que tu as 276, qu'il n'y a pas un être humain qui serait perdu, mais que le bateau seulement serait perdu. Verset 23, « Car un ange du Dieu à qui je suis et à qui je rends mon culte s'est présenté à moi cette nuit, disant, « Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant César, et voilà que Dieu t'a accordé tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc, tu as dans l'avenir, cela. Il est en train de dire, je te donne les 276 hommes, il n'y a rien que le bateau qui va crever, pas les hommes. Ça prenait Dieu qui l'avait décrété d'avance. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car je crois Dieu, la chose arrivera comme il m'a été dit. Spécial, hein? Mais il faut que nous soyons jetés sur quelque île. Et quand la 14e nuit fut venue, comme nous étions portés ça et là sur l'Adriatique, vers le milieu de la nuit, les matelots soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Et jetant la sonde, on trouva 20 brasses. Puis quand on fut à quelque distance de là et qu'on eut jeté la sonde, on trouva 15 brasses. Et comme on craignait de tomber sur quelque écueil, ayant jeté 4 rangs de la poupe, on faisait des vœux pour que le jour vînt. Et comme regardez bien le verset 30. Et comme les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau. Il lui a dit, là, mais les hommes, ils ne croient pas ce que Dieu a dit. Ils cherchaient à s'évader. Et comme les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau en descendant la chaloupe dans la mer, sous prétexte qu'ils allaient porter en avant des ancres de la proue, ils ne croyaient pas et ils disaient, ben moi, nous autres, on se pousse, là. Nous autres, on ne peut pas mourir, là. Ils ne croyaient pas ce que Paul disait. Paul dit au capitaine, et aux soldats, à moins que ceux-ci ne demeurent dans le vaisseau, vous ne pouvez être sauvés. Ils sont revenus, ils ont rembarqué sur le bateau et ils ont fini par se ramasser. Tout le monde était sauvé, comme Dieu l'avait dit. Alors, il n'a pas cependant décrété toutes choses telles qu'il l'a prévues. Les décrets de Dieu ne dépendent d'aucune façon sur des conditions futures. Par exemple, dans le décret de l'élection des âmes au salut, en Jésus-Christ. Il n'est ni vrai ni exact que Dieu a décidé de la destinée éternelle des âmes parce qu'il avait vu d'avance que ceux-ci placeraient leur foi en Jésus-Christ et que sur cette base, Dieu leur accorderait le salut. Dieu n'a pas décidé de te sauver parce qu'il savait d'avance, elle ou lui, quand on va lui présenter l'Évangile, il va l'accepter. Donc, je décrète qu'il va être sauvé. Non, il avait décidé de te sauver. Puis pas parce qu'il l'avait vu d'avance, parce qu'il avait pris sa décision. Pas la même chose. Pas tout à fait la même chose, du tout, du tout. Romains 8, versets 28 et 29. « Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble en bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein arrêté. » Ça, là, C'est le verset, je dirais, un des versets les plus profonds des Écritures. Nous savons que toutes choses, et dans le grec, c'est « travail ensemble ». Toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie, les événements, ils travaillent ensemble pour ton bien. On devrait te chialer qu'il arrive quelque chose dans notre vie. Si Dieu a dit que les événements travaillent ensemble, c'est que toutes les circonstances travaillent ensemble pour notre bien. Mais on chiale pareil. Ceux qu'il a appelés selon son dessein arrêté, verset 29, parce que ceux qu'il a préconnus, il a aussi déterminé d'avance qu'il serait conforme à l'image de son Fils et pour qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. Et ceux à l'égard desquels il a déterminé d'avance cela, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qui ont déjà étudié théologie un peu, ils appellent ça « the golden chain of salvation ». Il y a cinq choses, cinq mailles. Appelés, justifiés, glorifiés. C'est très intéressant d'étudier ça. Tous les verbes sont au passé. Alors, tu es en train de dire que Dieu avait décidé de la manière dont tu étais pour être sauvé et tous les détails de ça. Donc, la préconnaissance, quand on parle de préconnaissance d'un verset comme ça, ça signifie l'amour de Dieu à l'égard des élus de toute éternité. Ce sont ceux qu'il a pré-aimés. Pré-aimés à salut. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Élus selon la préconnaissance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour apprendre l'obéissance et recevoir l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que grâce et paix vous soient multipliées. Quand on parle de préconnaissance, là, quand vous étudiez les commentaires, ils vont vous dire que c'est pré-aimé. Dieu t'a pré-aimé de toute éternité. Et c'est à cause de ça que les choses concernant le salut t'arrivent. Donc, trois applications de ce qu'on vient de voir. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait encore énormément de versets à aller voir parce que je vous ai dit plein d'idées. Mais dans les notes, il y a plein de versets. Et si quelqu'un prend la peine de prendre une étude comme ça puis d'aller voir les versets, je vous le dis, vous allez être richement récompensé spirituellement. Richement. Parce qu'on finit par comprendre quelque chose qui est fondamental pour comprendre ce qui nous arrive dans la vie. Non seulement dans nos propres vies à nous, dans la vie de tous les membres de toutes les églises du monde, et dans la vie de tous les hommes et de tous les gouvernements, de tout ce qui s'est passé sur la terre, y compris ce qui se passe dans l'univers. Ça nous aide à comprendre mieux. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où tu vas avoir compris la doctrine, que tu ne chioleras plus jamais. Parce qu'on est des pécheurs, on va chioler encore. Mais peut-être qu'on va chioler moins. Si déjà, quand il pleut, puis qu'il tombe la neige l'hiver, même si ça nous déplaît, qu'on ne chiole pas, on a fait un très grand pas. Parce que Dieu a décidé ça comme ça. Puis quand tu chioles contre lui, c'est comme « Hey, moi, je saurais quoi faire, là! » Hey, pas des farces, là, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est énorme comme péché. Hein? On est en train de dire « Dieu, ce que tu m'envoies aujourd'hui, ça ne me plaît pas. » Pourtant, la Bible dit que c'est très saint et très sage. On ne se rend pas compte de la gravité du péché, ce que je vous disais au début. Là. C'est qu'on ne se rend pas compte, parce que si on se rendrait compte, là, on tomberait à genoux et on pleurerait comme des veaux. Parce qu'on fait des péchés très graves, beaucoup, beaucoup plus graves qu'on pense. Trois applications. La première, je dirais, implorons la grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est même quelque chose qui est le contraire. On mériterait le contraire. Quand on fait un péché de chialer, là, on mériterait d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. On s'est rendu compte de ça? Implorons la grâce de reconnaître la main de Dieu dans tout ce qui arrive dans l'univers, sur la terre, dans la vie des nations, dans la vie des individus et plus particulièrement dans les vies des élus. Toutes nos circonstances font partie de la providence de Dieu et sont inclus là-dedans. Oh mon, si on comprenait, on serait toujours en paix. Il n'y aurait jamais rien qui nous dérangerait parce qu'on réfléchirait et on dirait Dieu lui-même a décidé de cet événement-là dans ma vie. Puis là, Romains 8, 28 nous remonterait à l'esprit et on dirait c'est pour mon bien. C'est pour m'amener à ressembler davantage à Jésus-Christ. On aurait l'âme sereine, on ne chiolerait pas, ça nous ferait penser à Dieu et on serait soumis Mais nous, on n'est pas soumis. On chiale tout le temps. Quelque part, il faut prendre conscience de ça. Donc, implorons la grâce de reconnaître la main de Dieu dans tout ce qui arrive. L'univers, la vie des nations, la vie des individus et la vie des élus en particulier. Nous, c'est nous. Deuxième application. Soyons complètement émerveillés et aussi rassurés, sachant que tout ce qui arrive sur la terre et dans nos vies, dans les moindres détails. Vous êtes assis là, au bureau, là ça va bien, là, vous êtes en train de préparer votre sermon. Donc, il y a quelqu'un qui t'appelle, puis il est en pleurs à l'autre bout. Il y a quelque chose qui se passe en toi. T'es dérangé. C'est vrai qu'on est de même? Les moindres petits événements de nos vies, là, Dieu les a prévus, il les a décrétés. Pas croyable. Il faut vraiment prendre conscience que tout ce qui nous arrive a été décrété par Dieu, dans les moindres détails, et sont sous son contrôle parfait. Si on réfléchirait à tout ce qui nous arrive au cours de la journée, combien de fois on chiale? C'est pas croyable. Chaque fois qu'on chiale, on pêche. Quand je vous disais la gravité du péché, on gratte. Mais c'est une seule fois, tu mériterais d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Prions le Seigneur de nous donner, de voir la main, sa main dans l'exécution de tout ce qui nous arrive dans nos vies. Troisièmement, louons le Seigneur et adorons-le pour sa sagesse, sa bonté et sa miséricorde dans la direction de tous les événements de nos vies, de tout ce qui nous arrive. C'est plein de sagesse, c'est plein d'amour, c'est plein de miséricorde. Même si on ne le voit pas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est que si on demande à Dieu, « Seigneur, permets que je voie ta main dans tout ce qui m'arrive au cours d'une journée, dans les moindres détails. » Il y en a beaucoup de détails dans une journée, hein? Il y en a beaucoup. Puis de voir sa main à l'intérieur de ça, puis de voir que si la circonstance qu'il t'envoie, c'est ce qu'il y a de mieux pour ta vie, là. Tu devrais toujours être content. On est-tu toujours content? Puis chaque fois qu'on rue des brancards, comme on dit, on pêche contre Dieu. Et c'est grave. Alors, il n'y a que la prière qui peut changer les choses en prenant conscience et en allant devant le trône de la grâce et en implorant le Seigneur de nous faire voir ces choses-là. Alors que notre grand Dieu soit loué, béni et adoré à tout jamais. Amen.